Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de L'écume des pages. Aujourd'hui, en compagnie de Colin Arcard, nous allons partir à la rencontre de Yasmina Kadra, venue à Lyon pour nous parler notamment de l'attentat dans le contexte des attentats du 13 décembre. Bonne écoute à tous.
Oui, je crois que bon, un jour peut-être je n'écrirai pas, mais je sais que je lirai toujours à moins de ne plus pouvoir voir.
Nous sommes aujourd'hui en compagnie de l'écrivain algérien Yasmina Kadra. Vous êtes considéré comme l'un des plus grands écrivains algériens
de notre époque.
vous étiez officier dans l'armée algérienne, vous l'avez quitté au grade de commandant.
Oui.
Vous avez écrit une trilogie sur le conflit entre Orient et Occident avec les hirondelles de Kaboul, l'attentat et les sirènes de Bagdad. Votre dernier livre, La dernière nuit du rail, a été traduit dans 8 langues, a été publié dans une dizaine de pays et raconte les derniers jours d'un tyran, figure emblématique au Maghreb. Vous venez ce soir à la bibliothèque municipale de Lyon discuter de votre ouvrage L'attentat.
L'attentat, c'était le livre de mes adieux. J'ai été tellement mal accueilli par le milieu littéraire parisien,
ouais,
que j'avais décidé tout simplement de ne plus jamais parler de littérature. Et donc, j'étais en train de faire mes adieux à mon éditeur.
Ouais.
À l'époque, je vivais à Aix-en-Provence. Donc, j'étais monté à Paris pour tout simplement expliquer ma décision et remercier mes éditeurs pour les efforts qu'ils ont déployés.
D'accord.
Pour moi, parce que c'était des gens qui croyaient fermement dans ce que je faisais. Au cours de ces adieux, j'étais chez la personne qui s'occupait des programmations et des sorties des écoles de France. Et voilà, je n'ai pas compris pourquoi je lui avais demandé quelques feuilles. Et je me suis mis à écrire dans son bureau. Puis j'ai pris le train, je continue d'écrire. Et quand j'arrive chez moi, je continue d'écrire pendant 2 mois. Au bout desquels, moi, j'avais l'attentat entre les mains.
Qu'est-ce qui vous a dissuadé d'écrire ?
Simplement, dans mon petit milieu militaire,
ouais,
j'idéalisais beaucoup le monde des écrivains. Je pensais que c'était des gens de lumière, des gens éclairés, qui étaient capables de nous faire traverser la vallée de ténèbres sans problème, et nous éveiller sur pas mal de choses, et nous responsabiliser en tant que citoyen, en tant que personne à part entière. Mais ce n'était pas du tout ce que j'avais trouvé. J'étais même désarçonné. Je ne comprenais pas. Pourtant, mon engagement pour la littérature était l'un des engagements les plus périlleux. J'écrivais sous les drapeaux pendant la guerre terroriste. Et cet accueil-là m'a complètement foudroyé. À aucun moment, je n'ai pensé qu'un homme qui a été l'enfant et tout, pouvait aussi ressembler à un barbare. Alors, j'ai écrit l'attentat pour faire mes adieux à mes lecteurs. Il y avait beaucoup de gens qui me lisaient sans même me connaître. Il faut rappeler qu'à l'époque, les gens lisaient Yasmina Kadra sans pouvoir mettre un visage sur son pseudonyme. Donc, par gratitude, par immense respect, par immense considération, j'avais offert ce livre en signe d'adieu à tous les gens qui avaient cru en moi. Et je suis rentré en Algérie, j'avais inscrit mes enfants à l'école algérienne. Pour moi, dans ma tête, c'était fini. Et puis, c'est comme si la littérature ne voulait pas me lâcher. Le livre a eu un succès foudroyant. Ma femme m'a dit, écoute, si les écrivains ne veulent pas de toi, sache que la littérature, elle, exige que tu reviennes. Et je suis revenu, c'était parti, reparti de nouveau. Donc l'attentat, c'est un livre qui a une importance capitale dans ma vie. C'est même le livre le plus traduit que j'ai, le plus lu aussi dans le monde, même si en France, c'est que le jour de la loi à la nuit qui l'a battu. C'est pas un livre polémiste. Je n'ai jamais aimé la polémique. Je trouve que c'est un débat inutile et qui est beaucoup plus destiné aux cuistres qu'aux ordinaires. Et voilà, c'est une histoire particulière qui a touché des millions de gens. Simplement parce qu'elle traite d'un sujet très très dangereux, c'est le conflit israélo-palestinien. Mais
des fois un très bel adieu, un peu le livre dans lequel vous avez tout mis.
Non, d'abord je l'ai écrit dans une espèce de stoïcisme. J'étais très triste de devoir quitter la littérature. C'est mon univers, depuis que j'étais enfant, j'étais écrivain. J'ai commencé à écrire à l'âge de 5 ans. Déjà à 11 ans, j'avais écrit ma première nouvelle. Et me voir renoncer à un rêve qui m'a permis de traverser une époque assez difficile, mais vaillamment, qui m'a permis de survivre à une guerre, un terroriste, pendant 8 ans. C'était quand même une petite mort. J'ai peur de ne plus pouvoir retrouver mes repères d'antan. C'était la seule lumière au bout de mon tunnel qui me faisait croire que je pouvais arriver jusqu'au bout. C'est un livre qui a une touche assez humaine. Et d'ailleurs, c'est un livre extrêmement humain. Voilà, j'essaie de convoquer l'absurdité des hommes autour d'une table et prouver qu'elle est la mère de tous les gâchis.
L'absurdité des hommes, mais aussi un peu de la société, puisque le chirurgien Amine se fait agresser, violenter, alors qu'en fait...
Oui, mais on ne peut pas échapper à ça. Sa femme a été une kamikaze. Lui, c'est un médecin éminent. Très respecté à Tel Aviv, il pensait vraiment appartenir à cette société, à cette communauté. Il a passé sa vie à soigner, à sauver des malades, et parce que sa femme l'avait en quelque sorte trahi sa confiance. Il se retrouve sur le même échafaud qu'elle.
Ouais.
Mais ça revient un peu à dire que l'intégration n'est pas toujours évidente. Au moindre petit accro, on redevient l'autre, on redevient l'étranger, on redevient le corps étranger dans une société.
D'ailleurs, à ce propos, à la fin du 6e chapitre, le grand-père de Kim, le vieux Yehuda, déclare « Je ne comprendrai jamais pourquoi les survivants d'un drame se sentent obligés de faire croire qu'ils sont plus à plaindre que ceux qui y ont laissé leur peau ». Selon vous, qui est le plus à plaindre, la victime ou le survivant ?
C'est normal, c'est la victime. La victime, parce qu'elle n'est plus là, parce qu'on lui a ravi sa vie. On l'a empêché de faire le bonheur de ceux qu'il aimait. Voilà. Mais c'est vrai que généralement, ce sont les rescapés qui veulent avoir toute la gloire pour eux. Ils veulent faire croire que leur martyr a été le paroxysme de toutes les souffrances et oublient dans ce miracle qui est le leur, la tragédie des autres. Non, je peux pas lire parce que j'ai une diction assez désagréable. J'aime pas m'entendre lire. Je préfère entendre les autres. J'ai eu beaucoup de chance d'écouter mes textes à travers la lecture de grands comédiens. Et je ne sais pas, il y a une façon, il y a une musicalité dans ce que nous sommes en train de lire, mais cette musicalité devient beaucoup plus presque cosmique quand elle se fait en silence. Moi, j'aime me lire en silence et je suis très fier de ce que c'est, de ma voix intérieure. Mais une fois cette voix à l'extérieur, c'est carrément catastrophique.
Personnellement, moi j'aime bien quand les auteurs lisent un bout de leur tête. Finalement, je trouve que ça change l'image qu'on a du roman. J'avais vu James Ellroy, et je trouvais ses têtes qui étaient très noires, vraiment pessimistes.
Ouais.
On a l'impression que vraiment c'est une fatalité dans ses romans. Il avait lu un texte, il était très vivant, finalement pas du tout noir.
C'est pour ça que les réactions sont très différentes chez les uns et les autres. Pour une même œuvre, il y a des appréciations qui sont aux antipodes l'une de l'autre. C'est peut-être notre façon de lire et qui influe sur l'originalité d'un texte, qui est sur sa véracité, sur son authenticité. On s'entend lire et si notre voix ne porte pas aussi haut que les mots du texte, il y a quelque dysfonctionnement quelque part. Il ne faut pas s'étonner de voir, par exemple, une dizaine de lecteurs avoir une dizaine d'appréciations propres
D'accord, donc c'est la volonté de donner sa propre voix au roman, de vous effacer derrière votre œuvre.
Oh, je m'efface toujours derrière mes personnages. Je deviens leur nègre, moi. Je ne suis pas véritablement impliqué dans ce qu'ils font. Je suis tout simplement à la disposition de ce qu'ils veulent bien faire ou transmettre au lecteur. Donc moi, je suis cette plume. Mes personnages, souvent, sont des gens de petite fortune qui n'ont pas assez d'instructions. Et s'ils me sollicitent, c'est tout simplement pour que je leur prête ce que j'ai de plus consistant dans ma littérature afin que leur voix puisse porter véritablement leurs états d'âme, leurs aspirations, leurs rêves, leurs angoisses. Pour moi, ouais, c'est ça le travail d'un écrivain.
Mais Attic et Mosen sont plutôt lucides de leur situation. Ils ne sont pas prêts à beaucoup d'instructions, mais ils ont un recul assez important, assez éclairé sur leur situation.
Je ne pense pas qu'ils aient été lucides. Hein. On leur a confisqué tout ce qu'ils pouvaient les installer dans la sérénité. Et la lucidité est justement la partie visible de la sérénité. D'accord. C'est la partie active de la sérénité. Non, en Afghanistan, sous les talibans, la sobriété n'était ni dans le discours, ni dans la réflexion. Les gens étaient soit dans la colère, soit dans la résignation la plus épouvantable. Et dans cet état, on ne peut pas être assez éclairé pour savoir ce qu'on fait. On peut savoir ce qui nous arrive, on peut même le subir de façon assez claire, mais la réaction, elle est totalement disproportionnée. C'est pour ça que mes personnages ont fait des choses qui dépassaient un petit peu leur propre imagination.
D'accord. Une question d'interprétation, justement. Le personnage principal, Amin Jafari, parfaitement intégré dans la société israélienne malgré le fait qu'il soit arabe, il se remet à fumer après l'attentat suicide de sa femme. Est-ce que c'est une anticipation de sa mort à venir, puisqu'il périt en fait entouré de flammes, ou est-ce que c'est un suicide à long terme, comme le poète portugais Fernando Pessoa?
Non, il a vu sa vie partir en fumée, donc il n'a plus de repère que dans la fumée elle-même. Donc il fume parce que tout simplement, il n'a plus envie de vivre. Il se met en danger. Puis lui-même, il est conscient du danger qui gravite autour de sa fragilité, de sa vulnérabilité. Donc il se remet à fumer. Moi, il y a un autre personnage aussi dans un livre que je n'ai pas fini d'écrire qui commence à fumer à l'instant où il comprend qu'il a tout perdu.
D'accord. D'où son entêtement à continuer de retourner voir l'imam.
Oui, c'est suicidaire ce qu'il a fait.
D'accord.
Et il voulait savoir, il voulait comprendre, il voulait... En réalité, il voulait surtout situer sa responsabilité. Il se disait s'il n'était pas coupable d'avoir négligé tel ou tel détail dans sa vie conjugale, s'il a été un bon mari, alors pourquoi sa femme a-t-elle choisi d'écouter les charlatans, ou ce qu'il considère lui comme des charlatans, plutôt que sa propre poésie à lui. Donc voilà, et il va au charbon parce qu'il n'a plus peur de rien.
Ok, d'accord. Est-ce qu'on peut parler de l'attentat comme d'un roman de la désintégration de l'identité, puisque celle du protagoniste et de son épouse, et ainsi que de la perte de la confiance en soi?
Non, ce n'est pas le roman de la perte de la confiance, ou ce n'est pas un roman identitaire, c'est un roman, c'est un appel à la raison. Quoi. C'est un livre qui dit « Il n'y a rien de plus précieux que la vie ».
D'accord. La référence au père.
Oui, il n'y a rien de plus précieux que la vie, parce que c'est la seule préciosité qui nous appartient. Tout le reste ne comprend. La patrie, par exemple, la religion, les idéologies, tout ça nous éloigne de ce que nous sommes véritablement, parce que ça nous dilue dans une masse informe qui pourrait devenir tout simplement notre tombeau. Et la seule façon de récupérer une bonne partie de soi, c'est de continuer de croire que la vie est précieuse et qu'elle mérite d'être vécue malgré tout. D'accord. C'est ça l'objet de mon livre. C'est pas la crise en elle-même. C'est peut-être ce manque de discernement qu'ont les êtres humains sur Terre et qui pensent qu'il y a des choses plus importantes que... Il n'y a rien de plus important que vous. Il n'y a rien de plus important que moi. Parce que dans un de mes romans, il y a un poète qui dit « De mes joies, je n'ai aucun mérite, de mes peines, aucun regret. Pour moi, l'histoire n'a que l'âge de mes souvenirs et l'éternité, la fausseté de mon sommeil. » C'est-à-dire qu'avant notre naissance, le monde n'existait pas. Et après notre mort, il cessera d'exister. Voilà, c'est dans ce petit laps de temps que nous accorde la nature que l'on devrait semer tous les grains de nos rêves.
D'accord.
Il faut toujours aller vers le bonheur, il faut aller vers ce qui est agréable, vers ce qui pourrait nous rendre utiles. Parce que la véritable vocation de l'être humain, c'est d'être utile à quelque chose, c'est d'être utile aux autres. Sinon, à quoi ça sert de disposer d'une intelligence et d'une empathie et d'une sensibilité? À quoi ça sert tout ça? On n'est pas des animaux pour n'être que des prédateurs qui vivent pas au jour le jour, mais au repas, au repas. Voilà, mais c'est une philosophie qui est presque angélique. Ça pourrait paraître comme une espèce d'utopie. Mais pour moi, l'utopie, c'est ce qui reste quand tout a été essayé dans la faillite.
D'accord. Par rapport au rêve, c'est un peu comme le rêve du papillon. Ouais. Le moine rêve qu'il est un papillon et au réveil, il se demande si c'est lui qui a rêvé d'être un papillon ou si c'est un papillon qui a rêvé d'être un moine, qui rêvait d'être un papillon.
Oui, c'est peut-être ça. Mais toutes ces belles petites choses ne nous interpellent pas. On dirait que nous sommes beaucoup plus attentifs à tout ce qui nous choque.
Ouais.
Et nous nous méfions de tout ce qui pourrait nous inviter au bonheur. Parce que le bonheur est tellement facile qu'on le néglige. On se sent en mesure de relever tous les défis, alors qu'on n'en a pas besoin. Si quelque chose nous dépasse, qu'on la laisse là où elle est et aller vers ce qui pourrait nous aider à mieux nous cerner, à mieux peut-être nous assumer. Et on ne peut s'assumer que dans ce qui est bien. Le mal n'a jamais été un bon compagnon. Et j'ai écrit dans un de mes livres aussi ceci. Le bien n'a jamais triomphé du mal. C'est le mal qui finit par jeter l'éponge à cause de ses abus.
D'accord.
Fatigué par ses abus.
C'est dans quel livre?
C'est L'imposture des mots.
D'accord. Je retiens. Parlons un peu de la figure du père. Le père est très représenté dans le roman. Il y a d'abord le père biologique d'Amine, il y a aussi ses pères spirituels, son grand-oncle, son grand-père et Ezra. Il y a aussi le grand-père de Kim et à la fin, Zit l'ermite. Est-ce qu'il y a un sens à comprendre à cela, vu que Amine lui-même dans le roman n'est pas père?
Oui, mais que disent ces anciens?
D'accord.
Ils disent leur expérience de la vie. Ils disent peut-être leur émulation. Ils ont compris, eux, parce qu'ils ont vécu leur vie, ils ont remarqué que les rares choses qui pourraient nous servir, ce sont les moments de joie, et tout le reste n'est que gâchis.
D'accord.
Eux, ils ont compris, parce qu'ils sont au crépuscule de leur vie, et leur jour commence à décliner, et c'est la nuit qui va les absorber comme un buvard. Donc, ils essaient de dire à ceux qui sont derrière, à ceux qui sont encore au matin ou bien à midi, profitez de la vie. Et ils sont la sagesse. Moi, j'ai toujours vu dans plus aîné que moi de la sagesse. Peut-être parce que je viens d'un monde où les anciens incarnent une certaine réalité et une certaine lucidité. Voilà. Peut-être que je ne la trouve pas en Occident. Mais dans ma tribu, dans le Sahara, tous les anciens, tous les gens qui étaient plus âgés que nous avaient une lumière à nous apporter dans la vie.
D'accord. Une autre question sur la manière d'écrire. Donc, à la fin du roman, Amine a une discussion avec son neveu Adèle sur la mort de sa femme. Les réponses d'Adèle sont typographiées en italique. Est-ce que c'est un choix de votre part?
Non, c'est les italiques, c'est toujours de... Oui, c'est un choix.
D'accord.
C'est un choix.
Du coup, en fait, est-ce que c'est vraiment Adèle qui répond à Amine ou est-ce que c'est plutôt la réflexion personnelle et intime d'Amine et qui est en fait le protagoniste attribué à son neveu?
Non, pas du tout. C'est vraiment le choc de... c'est un choc de mentalité, c'est un choc de choix. Chacun est dans son camp et chacun essaye de défendre la justesse de son choix.
D'accord. Oui.
Mais en même temps, c'est une explication très très forte. On est face à deux visions diamétralement opposées de la vie et de l'engagement.
Ouais. En plus, c'est très particulier l'engagement d'Adèle et de ses partisans, puisqu'ils sont ni djihadistes ni intégristes, c'est plus une espèce de cri de soi en fait.
La Palestine, ça n'a rien à voir avec le djihadisme. Les Palestiniens sont en train de se battre pour avoir un État à eux,
ouais.
Pour avoir la possibilité d'être dignes. de ne devoir plus rien à personne et de construire un pays où ils pourraient faire étalage de leur génie, de leur talent, de leur générosité. Donc le problème, c'est que aujourd'hui, plus que jamais, là où il y a une véritable cause qui est défendue, elle est tout de suite infiltrée par ce qu'on appelle les agitateurs. Le Daesh, par exemple, en Irak, il a pris une dimension très importante lorsqu'il s'est porté comme le soutien des sunnites. Et les sunnites ne voulaient pas la guerre, ils voulaient tout simplement avoir une considération dans leur pays. Ouais. Mais les chiites ne voulaient pas leur donner cette considération parce que les chiites se vengeaient de ce qu'ils avaient subi sous le pouvoir de Saddam. Ouais. Et dans cette colère-là, qui est une colère sociale et politique, le Daesh a trouvé un terroir.
D'accord.
Et donc il s'amène avec son armada en roulant des mécaniques. Au début, bien sûr, il est bien accueilli parce que quand même, il est un rapport de force qui s'invite dans le conflit. Mais par la suite, je suis certain maintenant qu'il le regrette. Donc, il faut vraiment faire la part des choses. Il ne faut pas tout mettre dans un même sac. En Occident, peut-être que vous avez une culture unique. C'est-à-dire, vous croyez tellement intelligent, tellement créateur, que vous méprisez pratiquement ou vous ne voyez pas l'intelligence et la création. Donc, vous vous auto-satisfaites. Vous vous auto-satisfaites. D'accord. Donc, quand on parle de littérature, c'est vous la référence.
Ouais.
Hein, vous avez Molière, vous avez Steyron, vous avez Dos Passos, vous avez Gorky. Et puis, quand on vous parle de littérature, par exemple, arabe ou africaine, pour vous, c'est la sous-culture. Alors que peut-être que de l'autre côté, il y a des écrivains qui sont beaucoup plus percutants que les vôtres. Et des sages beaucoup plus éclairés que les vôtres. Donc, et c'est pour ça qu'il faut absolument casser les frontières. Parce que ces frontières, c'est un encamisolement. C'est un néologisme que j'ai inventé, mais ça vous encamisole. Ça vous enferme dans une sorte de paranoïa qui vous fait croire que vous savez tout. Moi, quand j'étais en tournée aux États-Unis, j'ai remarqué une chose terrible. C'est que les Américains, ils ne savaient même pas où étaient situés certains de leurs propres États. C'est dire à quel point ils se sont transformés en poissons rouges. Et ils sont très bien dans leur bocal. Voilà. Mais ils oublient que le vertige véritable de la vie, ce sont peut-être les flots de l'océan. Ce sont le corail, ce sont des paysages fantastiques sous-marins. Mais eux, ils sont dans leur bocal, ils sont nourris, ils ne manquent de rien, et ils pensent qu'ils ont tout.
C'est marrant ça, j'ai lu un article hier sur une professeure d'université qui parle de l'informatique occidentale. Finalement, on trouve toutes ses sources en Afrique, le 0 et le 1, et le fait qu'en fait certains algorithmes très complexes utilisés par les réseaux sociaux se retrouvent dans le sauna. Donc en fait,
moi j'entends une idée assez grossière qui a fait quand même son buzz, comme disent les jeunes aujourd'hui, c'est le choc des civilisations. Moi j'ai entendu des intellectuels de haut rang parler de choc des civilisations. Et d'un seul coup, le respect que j'avais pour eux s'est émietté. Parce qu'il n'y a jamais eu de choc des civilisations. La civilisation, elle n'appartient pas à une nation, n'appartient pas à un continent. La civilisation, c'est le voyage de l'homme à travers les âges. C'est ça la civilisation. C'est de l'homme des cavernes jusqu'à l'astronaute. C'est ça la civilisation. Parce que chaque partie du monde a nourri une autre partie qui, elle aussi, a nourri d'autres parties. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, nous sommes des gens capables de parler la même langue et d'avoir peut-être la même appréciation des valeurs humaines.
D'accord. Voilà.
Donc, il y a peut-être des chocs de culture, il y a des chocs de mentalité, mais la civilisation, elle est.
C'est ce qui viendrait englober tout ça.
C'est l'évolution de l'homme.
D'accord.
La civilisation, c'est l'homme lui-même. Elle est incarnée par l'homme. Qu'il soit en Afrique, ou en Asie, ou en Amérique, ou en Europe, ou bien en Océanie, c'est ça la civilisation.
D'accord. D'ailleurs, c'est pas en parlant de civilisation, mais en parlant de culture. En lisant le livre, j'ai retrouvé énormément de passages d'un essai qui s'appelle « Le guide du scénariste » de Christopher Baudelaire. Et en fait, dans cet essai, l'auteur dresse une typologie archétypale des personnages et des actes narratifs. Il parle même d'un schéma classique des romans, où en fait ce serait le voyage d'un héros mille visages, qui serait donc un voyage à la fois universel et commun à toutes les cultures. Est-ce que vous avez entendu parler de cette théorie? Est-ce que ça vous a influencé?
Oh, moi je me méfie beaucoup des théories. Quelquefois c'est juste un fantasme assez pédant. Il y a des gens qui d'un seul coup, à partir d'une idée, ils font une encyclopédie. Ouais, mais moi je pense que c'est vrai que l'homme, finalement, n'est que ce que les autres voudraient qu'il soit. Mais il ne peut pas avoir mille visages. Il a le même. Ce sont les regards qui sont différents.
Oui.
Voilà, ce sont les regards qui sont différents. Et lui-même, quelquefois, il hésite entre ce qu'il est et ce que les autres font de lui. Et le meilleur des êtres humains, c'est-à-dire celui qui a vraiment fait le bon choix, est celui qui accepte de rester lui-même. D'accord. Dans l'équation africaine, j'écrivais, le courage, le vrai, c'est d'être soi, c'est de rester soi-même. Voilà. De ne pas se laisser défigurer par les appréciations des autres. C'est surtout si on est dans quelque chose, si on est bon, si on a la conscience tranquille, si on dérange par notre noblesse, quand je dis noblesse, c'est une noblesse d'âme.
Ouais.
Si on dérange par notre authenticité ce dérangement nous soumet à des influences extérieures très brutales, il faut rester soi-même. Il ne faut pas devenir bon, il faut absolument que l'on change un petit peu pour amortir le regard des autres. Non, le regard des autres leur appartient, mais nous devons appartenir à nous-mêmes.
Oui, mais c'était plus au niveau de la construction des personnages. Certains personnages sont plus ou moins des gardiens du seuil. Il y a le capitaine Moshe qui en fait incarne finalement le regard de l'autorité israélienne sur ses propres citoyens. Il y a Adèle aussi, qui même regarde le personnage principal d'un autre œil finalement, du point de vue de ses anciens, de ses ancêtres, de tout ce qui est.
C'est ce que je disais tout à l'heure.
Oui.
C'est ce que je disais, c'est toujours le regard des autres, on ne sait pas ce qu'on est. Mais un roman, c'est quoi finalement? C'est un reflet de la société elle-même.
Oui.
Donc on n'est pas dépaysé véritablement. Quand on entre dans un livre, c'est comme si on entrait dans une famille ou dans une ville, et puis on regarde. On regarde. Et ce que je disais au tout début, notre réaction finalement nous trahit.
Oui.
Parce qu'on ne réagit pas de la même façon à une même œuvre. Nous pouvons voir la même chose, mais pas de la même façon.
D'accord.
C'est là où l'on peut se situer par rapport aux autres. On se situe, on se découvre.
Une question, maintenant, par rapport à votre passé. Vous publiez depuis 1987, donc officiellement, sous le pseudonyme Yasmina Kadra. Auparavant, vous utilisiez votre nom d'état civil. Mohamed Moulessoul.
Mohamed,
j'ai dit le mot à Sad.
Oui, mais c'est pas grave.
D'accord, désolé. Et donc, vous utilisiez votre nom d'état civil jusqu'à la publication du Dingue du Biscuit-Touri en 1990. Pour quelles raisons est-ce que vous avez opéré ce changement d'identité? Alors, en fait, maintenant, je le sais, mais...
Oui, beaucoup de gens ne le savent pas. C'est-à-dire qu'au début, j'écrivais, j'étais autorisé par l'armée à publier mes livres. Et avant cette autorisation, on a demandé à jeter un coup d'œil sur ce que j'étais en train de faire.
D'accord.
Et je leur avais donné des livres que j'avais écrits à l'âge de 12 ans, 13 ans. Et quand ils ont lu, ils ont dit qu'il ne sera jamais écrivain. Autant lui donner l'autorisation. Ils étaient persuadés que jamais je ne serais.
D'accord. Okay.
Je ne serais jamais... publié. Voilà. D'accord. J'étais tellement mièvre, tellement plein de fautes. C'était. Et ils ont pensé que, comme beaucoup de gens, je fantasmais par une sorte de gentillesse. Ils m'ont dit, ok, d'accord, vous êtes autorisé à publier vos livres. Et mes livres sont sortis, les vrais.
Ouais.
Ils ont mis beaucoup de temps à sortir. Horia, par exemple, mon premier recueil de nouvelles, il a été déposé en 1976 chez l'éditeur. Il est sorti en 1984.
Ah oui, d'accord.
Mais c'était valable pour tous les écrivains en Algérie, sauf pour ceux qui avaient des... qui étaient parrainés ou bien qui avaient des connaissances dans le milieu éditorial. Et ça les a beaucoup surpris. Je crois même que l'officier qui avait signé cette autorisation a été puni. Oui, il a été muté quelque part. Et puis, et j'ai continué de publier mes livres. Et ça a commencé à bien faire.
D'accord.
Parce que j'avais publié 6 livres sur mon vrai nom. En Algérie et même en France. Je ne savais pas comment m'arrêter, simplement parce que les livres étaient surtout une initiation à l'écriture elle-même.
D'accord.
Je ne m'attaquais pas à des sujets de société. Je ne les dérangeais pas dans mes textes. Mais je les agaçais. J'étais un peu comme une mouche. J'agaçais, mais je ne piquais pas. Et puis, j'ai eu un petit prix en France.
Ouais.
En région Aquitaine. Un prix de concours de nouvelles pour amateurs. C'était rien d'extraordinaire. Et là, ils ont saisi l'occasion pour me dire... Pourquoi tu as publié en France, qui t'a autorisé d'écrire en France et tout. Et ce n'était pas méchant ce que j'avais fait.
Ouais.
On m'a imposé un comité de censure militaire.
D'accord.
Donc, et bien sûr, ce comité de censure était chargé de refuser tout ce que je pouvais lui offrir.
Oui, c'était pas.
Voilà.
C'était pas destiné à vous autoriser, c'était
non,
vraiment.
C'était. Et en même temps, il savait que ça va me gêner.
D'accord,
d'autant plus que moi, je m'auto-censurais avant. Tous les livres que j'avais écrits avant étaient auto-censurés. Je ne voulais pas que, par une petite prouesse, je me fasse complètement néantisé par la hiérarchie militaire en tant qu'écrivain. Parce que si j'avais proposé un texte litigieux ou polémique, c'était fini pour l'écrivain. On allait tout simplement peut-être même me sanctionner et m'interdire... définitivement d'écrire. Donc, je faisais très attention. L'écriture, c'était mon univers à moi. C'était ma cité interdite. C'était là où j'étais le roi.
Votre refuge.
Voilà. Surtout ma cité. J'étais vraiment heureux. Et avec ce comité de censure, c'était pas possible pour moi de continuer. Déjà, le comité, en lui-même, de par la composition de personnes, était hostile à ce que je faisais. J'avais décidé d'arrêter. Et puis, j'étais dans le Sahara, j'étais à Tamanrasset. On s'ennuyait ferme.
D'accord.
On ne captait même pas la télévision. C'est terrible. À l'époque, je n'avais pas encore d'enfant. Ma femme était très triste de me voir triste. Et c'est elle qui m'a donné le courage d'opter pour la clandestinité. Elle m'a dit, prends un pseudonyme.
Okay.
Et j'ai commencé à écrire sous pseudonyme pour, justement, ne jamais sombrer dans le déni... total que m'imposait la hiérarchie.
Et du coup, est-ce que vous avez eu des échos de, finalement maintenant, qu'est-ce qui se passe?
Non, ils ne savaient pas. Bon, mes livres sortaient, ça a été au début le Dingo Bistouri, puis la foire, c'était le commissaire Loeb. Et j'étais vraiment naïf parce que si la hiérarchie avait eu juste une seconde de présence d'esprit, elle aurait tout de suite situé l'auteur. Parce que le commissaire Brahim Loeb, c'est un personnage très bon à l'Académie de Churchill.
D'accord.
C'était le surnom d'un officier qui s'appelait Brahim. Donc on l'appelait Loeb parce que Loeb, ça veut dire lion.
D'accord.
Donc il était vaillant, il donnait l'impression d'être vaillant. C'était quelqu'un qui roulait tout le temps du mécanique, mais en même temps, il était d'une maladresse et d'une. Hilarante. Et si, par exemple, la hiérarchie s'était penchée uniquement sur le nom de mon personnage, elle aurait tout de suite elle aurait pu s'orienter vers une catégorie de gens bien précise et par la suite, par élimination, elle aurait abouti jusqu'à moi. Mais non, ça a été quelque chose de magique. J'étais passé entre les filets. Et puis, à partir des années 90... avec la sortie de Morituri, et le succès foudroyant qu'il a connu, ces livres-là. Et il y a eu un enchaînement tout de suite. Il y a eu L'automne des chimères, Double Blanc, L'automne des chimères, Les années du Seigneur, à quoi rêve les loups. Et ça a été vraiment quelque chose de très, très, très fort. Et il y avait des fabulations.
D'accord.
Certains parlaient d'une fille, d'autres d'un juif, parce qu'en Algérie, pour diaboliser quelqu'un, il faut dire que c'est un juif. Ou bien un harki. Alors, ils ont dit au départ que j'étais un juif, ou bien quelqu'un, ou un traître, ou ça dépend. Ouais. Parce que voilà. Et parallèlement, les gens ont découvert une espèce de. Ils ont développé un intérêt assez démesuré pour cet auteur. Et hop, certains ont sombré carrément dans le fantasme. Il y avait des gens qui m'avaient connu à l'université, qui étaient amoureux de moi, d'autres voilà, qui m'avaient perdu de vue depuis le lycée. Et on a inventé plusieurs personnages autour de ce pseudonyme. Et ça a embrouillé un petit peu, ça a brouillé toutes les pistes. Mais moi, j'étais engagé à l'époque dans la guerre antiterroriste. Mais ce n'était pas la mort dans un maquis, dans un accrochage ou dans une embuscade qui me terrifiait, c'était d'être identifié.
D'accord.
Voilà, j'espérais tenir le coup jusqu'en 2000 où je comptais prendre ma retraite. Et voilà, j'ai été aidé par le destin.
D'ailleurs, à propos de me retirer, j'ai entendu dire que vous étiez venu à Calicola. Vous êtes venu quand?
Cette année, je crois. Non, l'année dernière, je crois. Cette année, je crois.
J'ai pas vu.
On sait.
J'y suis bénévole depuis 4 ans et.
J'étais là.
D'accord, ok. Une question d'ailleurs à propos de votre manière d'écrire. Mais plutôt, c'est. Est-ce que vous avez un rituel déjà?
Non, pas du tout. C'est ça mon problème, c'est que je n'arrive pas. Peut-être parce que j'ai été toujours discipliné dans ma vie de militaire. Mais en même temps, il y a des séquelles. Quand j'étais encore sous les drapeaux. Je ne pouvais écrire qu'à des périodes précises. C'est-à-dire après une confrontation avec les terroristes.
Ouais.
Si cette confrontation était positive et que si on avait infligé une perte assez énorme aux intégristes, je savais qu'il restait un mois à deux mois pour se ressourcer et revenir se venger. Donc moi, j'ai profité de ces mois, deux mois. Et la preuve, mon rituel, je l'ai écrit en un mois. Double blanc, on est moi. Donc, j'ai gardé cette façon de. J'ai gardé un petit peu ce rythme. Maintenant, quand j'écris, il faut que j'écrive très vite. Pourquoi? Parce que l'histoire est déjà dans ma tête. Donc, je passe mon temps à construire mon histoire dans ma tête. Et quand je me mets à écrire, il ne faut pas que ça dépasse 4 mois. Je me rends compte que j'ai aussi une femme et des enfants. Ouais. Il faudrait aussi que je. Et avec la promotion de mes livres, les voyages et tout, j'essaie de garder un maximum de temps pour mes enfants. Ils sont plus importants que moi-même, ils sont plus importants que mes livres.
J'ai l'impression de reconnaître l'histoire de Toni Morrison quand elle travaillait pour la maison d'édition Random House. Et en fait, j'avais échangé une fois avec un journaliste, éditeur, qui me racontait que quand il bossait pour Random House, il connaissait une femme qui, en fait, elle était mère célibataire, elle avait deux enfants. Et en fait, elle s'occupait de ses enfants. Et pendant son temps de sommeil, en fait, elle écrivait 4 heures chaque nuit. Et en fait, à la fin, c'était...
Toni Morrison,
oui, moi, très grande écrivaine. Je n'ai pas ce rituel. J'ai la chance d'avoir des enfants qui sont grands maintenant. Et une femme qui est très, très dévouée à sa famille. Mais je préfère quand même commencer... Parce que je veux toujours créer une ambiance et un rythme. Et je ne peux pas me permettre de ne pas me concentrer sur ce texte pendant des heures.
D'accord.
Et mon plus grand travail se fait sur la langue elle-même. Ce n'est pas l'imaginaire qui me pose problème. Je peux très vite construire une phrase, une histoire.
Ouais.
Mais vraiment très très vite. Je travaille avec des scénaristes qui sont complètement désarçonnés par la fulgurance de mon imaginaire. Ils me proposent quelque chose, je termine et puis ils reviennent me dire écoute, on ne peut pas changer tel ou tel. Et je change tout de suite. Voilà, l'imaginaire, je ne m'en plains pas. Mais l'épreuve véritable, l'épreuve de force, c'est la langue.
D'accord.
C'est une langue d'adoption, ce n'est pas la mienne. Je ne l'ai pas étudiée dans les universités. C'est une langue que j'ai aimée. Voilà, c'est mon rapport à la langue française, c'est un rapport affectif. Et donc, j'essaie toujours. De lui rendre le bien qu'elle m'a donné. C'est grâce à elle que je suis connu dans le monde entier, c'est grâce à elle que j'ai réussi à concrétiser mon rêve, et donc j'essaie de la mériter, comme j'essaie de mériter mes lecteurs. Et tout le travail est là, dans la langue.
Okay. D'accord.
Vous aider de... En fait, c'est quelle difficulté exactement? C'est au niveau du langage ou...
Non, je veux...
Traduire l'oralité
non,
de...
non, je veux produire une langue belle. Une
d'accord,
langue belle.
Ok.
Il faut que mon lecteur décèle tout de suite ma touche à moi. Je mets un peu de poésie dans mes métaphores. Je crée un univers assez... Voilà, d'ailleurs, je l'ai toujours dit, j'écris en français, mais pas comme les Français. J'apporte ma sensibilité dans du désert. J'apporte aussi la sagesse de mes ancêtres. Je m'investis en tant que coréen dans mon texte. Je suis moi.
Ouais.
Chaque phrase me raconte. En fait.
Votre style en l'attentat,
oui.
Au niveau des descriptions, des métaphores, ça fait un peu Zola.
Oui.
Zola, quand il décrivait des monstres,
oui.
Il employait toujours le même vocabulaire des chemins de fer.
Ouais.
Vous, quand vous parlez de ce qui arrive à Amine, en fait, c'est souvent un vocabulaire sur les maladies. C'est un médecin, donc c'est souvent très,
oui, mais
très
moi,
médical. Mais à la fois, ça ajoute quelque chose de très vrai. On s'identifie tout de suite grâce à ce vocabulaire ou au personnage.
Pour moi, un écrivain, ce n'est pas un capteur d'émotions des autres.
Ouais.
D'accord. Il ne tend pas un micro, il dit à son personnage, à raconter. C'est quelqu'un qui a un phénomène de transfert. Enfin, il prend les émotions de son personnage, il se les approprie, et puis avec sa plume, il les traduit. C'est comme ça que je vois l'écrivain. Je peux très bien faire un simple délinquant avec son langage, mais s'il n'y a pas d'âme dans ce qu'il dit, s'il n'y a uniquement que ce côté assez indigent de la langue, à quoi ça sert d'écrire? Il suffit d'aller dans la rue, écouter, mais la littérature, c'est autre chose. La littérature, c'est l'esthétique de la banalité.
D'accord.
Voilà, c'est ça, c'est décomplexer la réalité. C'est la décomplexer, c'est lui donner une dimension qui pourrait peut-être mieux l'éclairer et l'élever dans le
D'accord.
regard du lecteur. Mais aussi... j'essaie aussi de créer un style pour chacun de mes romans. L'Olympe des infortunes, ce n'est pas le même style que l'attentat. Et les Hirondelles de Kaboul, ce n'est pas le même style que les Onze Mères de nos blessures. Pourquoi? Parce que je trouve que c'est impératif pour moi, chaque écrivain livre, d'emprunter la voix qui lui convient. Mais pour moi, il faut que j'invente des voix pour chaque livre.
D'accord.
Voilà. Ouais. Il faut que j'invente une atmosphère et pour écrire, pour bien la cerner, il faut que je l'enrobe d'un style qui lui appartient.
D'accord.
Par exemple, dans La dernière nuit de Raïs, je suis allé vers la langue biblique, coranique. Voilà. Pourquoi? Parce que c'est pour porter le délire d'un homme qui se croyait investi d'une mission cosmique. J'essaie d'être vraiment dans une situation.
D'accord.
Question. Ben voilà, merci beaucoup.